à la recherche de Dieu. Et aujourd'hui particulièrement, cette pensée, connaître Dieu en entrant dans sa présence, le thème de notre message aujourd'hui. Mais au préalable, je voudrais relire un verset du psaume 27 que nous a lu Norbert la semaine dernière et qui, toute la semaine, a alimenté non seulement mes réflexions, mais je crois que plusieurs d'entre nous avons été touchés par ce verset, et notamment dans notre réunion du groupe du mercredi. J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Et c'est ce que nous venons de chanter, un chant qui nous introduit dans ce message. La présence de l'Éternel. Alors, on s'est posé la question mercredi soir à la rencontre du groupe de prière. Qu'est-ce que c'était que la beauté de l'Éternel ? Et c'est intéressant parce que c'est Jean-Christophe qui nous avait demandé de réfléchir sur ce verset. Et on a été un peu surpris les uns et les autres pour répondre comme ça, franco, c'est quoi la beauté de l'Éternel ? Et alors, on a regardé un petit peu dans les différentes versions. Et regardez comme c'est beau. Admirer l'Éternel dans sa beauté. Contempler la magnificence de l'Éternel. Contempler la présence ravissante de l'Éternel. Ça, c'est la version Martin. Et puis, il y en a une autre aussi. Pour la plupart du temps, c'est beauté. Mais dans la version Crampon, c'est pas mal aussi. Jouir des amabilités de l'Éternel. Alors, oui, il y a plusieurs... Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, on est d'accord, c'est Jésus. Mais ce chemin peut prendre plusieurs couleurs. Et la question qui a été posée mercredi, c'est quoi la beauté de l'Éternel ? Alors, il y a un frère qui a dit, ben, c'est quand ce qui a été dit ce matin dans une prière, c'est quand je vois le Seigneur agir dans ma vie de chaque jour et ses réponses et ce qu'il fait pour moi, c'est vraiment beau, cela m'émerveille. Puis un autre a dit, mais la beauté de l'Éternel, c'est quand on voit Jésus, puisque Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc dans l'Évangile, quand on voit Jésus, comment il réagit par rapport aux circonstances de sa vie et ce qui était devant lui, on trouve que c'est beau ce qu'il dit, c'est beau ce qu'il fait, mais on se dit, mais Dieu, c'est pareil. Donc on connaît l'Éternel et on trouve qu'il est beau, l'Éternel. Un autre a dit, pour le Seigneur, c'est pas difficile. Il peut révéler directement de son esprit à mon esprit, sans passer par mon intelligence, sa beauté. Et c'est vrai que dans la contemplation, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, il peut y avoir cette beauté qui nous est révélée, quelquefois en squeezant aussi notre intelligence. Ça, c'est beau, la contemplation. Aujourd'hui, je vous propose que l'on voit la beauté de l'Éternel, la magnificence de l'Éternel. Alors, je ne vais pas dire un gros mot, mais au travers de la doctrine. Oula, là, les visages se ferment. Mais non, la doctrine, c'est tout simplement la beauté de Dieu, vous allez voir. Donc, c'est une prédication thématique que je vous propose. Et devant ce beau PowerPoint, alors là, il vous faut prier pour moi parce que c'est que j'ai mis ma zapette. C'est pas souvent que je prêche avec un PowerPoint, c'est peut-être la première fois. Donc, toute votre indulgence. Donc, le thème, je vous le disais, le voile déchiré ou entrer dans la présence de Dieu. Les choses ont mal commencé. Les choses ont mal commencé, ce n'était pas gagné de rentrer dans la présence de Dieu. Regardez ce petit dessin que j'ai trouvé dans un livre de coloriage pour enfants, l'école du dimanche. Nous savons tous à quoi fait référence cette scène. Bon, ce n'était pas gagné au jardin d'Éden, quand le péché est entré. Regardez ce chérubin qui brandit l'épée flamboyante et Adam et Ève qui sont obligés de partir de la présence de Dieu. Ce n'était pas gagné. Et pour pouvoir apprécier le privilège qui est le nôtre d'entrer aujourd'hui d'une manière libre et belle dans la présence du Seigneur, et c'est bien de pouvoir remonter en arrière et de parcourir la Bible. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Devant un verset comme ça, on se dit, mais Seigneur, je vais être loin de toi. Le verbe chasser est bien significatif. Mais Norbert nous le rappelait dimanche dernier, notre Dieu est un Dieu de relation. Et ce Dieu de relation, il va changer les choses. C'est vrai que dans la Genèse, nous avons Dieu qui s'approche des hommes. Nous avons Dieu qui s'approche d'Enoch, qui marche avec lui 300 ans. Abraham, il appelle son ami. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? On voit bien que le désir de Dieu est de relationner. Et puis, dans le livre de l'Exode, Dieu décide quelque chose, et ça a été dit tout à l'heure par Anne-Laure. Il décide de faire une alliance. Il décide d'habiter au milieu de nous. Nous avons chanté, Seigneur, je voudrais habiter. Mais le premier qui a décidé d'habiter, c'est Dieu. Il a décidé d'habiter au milieu de nous. Alors là il s'agit d'un verset qui concerne le peuple d'Israël, mais nous pouvons l'adapter pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire ? Bon, on a tous plus ou moins une définition de ce mot. Sanctuaire, c'est un endroit privilégié, c'est un endroit sécurisé, c'est un endroit, c'est un abri, c'est un refuge. C'est un endroit qui nous protège. Mais alors, de quoi Dieu a-t-il besoin d'être protégé, puisqu'il veut un sanctuaire ? Dieu n'a pas besoin d'être protégé, c'est un sens un peu différent. Dieu ne peut pas être en contact avec le péché. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a eu le chérubin dans le livre de la Genèse. Et c'est pour ça qu'il va faire quelque chose dans ce sanctuaire pour nous montrer combien sa personne est sainte et combien il ne peut pas être approché comme ça par l'homme pécheur. La sainteté de Dieu, on vient de le chanter dans un chant, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Dieu est tellement saint que s'il nous révélait là ce matin aux uns et aux autres sa sainteté, pour le moins, nous serions sur nos genoux. Pour le moins. Et certainement que nous serions prosternés le visage dans la poussière si Dieu nous révélait sa sainteté réellement. Et donc, étant ce qu'il est, et c'est important de commencer comme ça parce que ça va nous faire apprécier le moyen qu'il a choisi pour que nous puissions nous approcher de lui. Alors, dans cette image, vous avez le tabernacle dans le désert. Certains de vous la connaissent, d'autres peut-être la découvrent. Et ce que je voudrais attirer votre attention sur ce nuage-là que vous voyez. Ce n'est pas un nuage. Le nuage, il est là. Hein. Ça, c'est la fumée de bois. C'est l'autel. Mais ça, ce n'est pas de la fumée de bois. C'est la nuée. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans le désert. Mais alors, comment Dieu a-t-il fait pour pouvoir fréquenter toutes ces personnes qui sont dans ces tentes, où il y avait certainement beaucoup de péchés, parce qu'ils sont comme nous, nous sommes comme eux. Alors Dieu a choisi d'habiter dans un petit carré de 5 mètres sur 5 mètres, qui s'appelle le lieu très saint, à l'arrière de cette tente, de cette maison-là, les deux tiers s'appelant le lieu saint et le tiers au fond, le lieu très saint. Et il a décidé de mettre un voile. Et vous avez vu le titre de mon message, c'est « Par le voile déchiré ». Et Dieu a décidé de mettre un voile, et on va le voir dans les versets suivants. Tu feras un voile de bleu, de pourpre, d'écarlate, de fin coton retors. On le fera d'ouvrage d'art avec des chérubins. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, etc. Et le voile fera séparation pour vous entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Alors pour mieux comprendre tout ça, parce qu'on n'est pas habitué à ce vocabulaire, c'est pour ça que j'ai fait un PowerPoint, mon premier. Il y a donc la description du voile. On y représentera les chérubins encore. Et là, vous avez un petit graphique qui nous montre bien ce que je vous disais tout à l'heure, les deux tiers et le tiers. Et la présence de Dieu, elle était là, là, derrière ce voile. On entrait par là, et là, il y avait l'arche de l'Alliance. Tout cela nous parle du Seigneur Jésus d'une manière typique. Je voudrais donner envie aux étudiants de la Bible, à ceux qui font le parcours, je crois que c'est le vendredi soir, quelque chose comme ça, eh bien, je voudrais leur donner envie d'étudier ça, et peut-être que j'y participerai. Et parce que dans tous les détails de ce sanctuaire, dans tous les matériaux utilisés, dans tous les objets utilisés, dans les tissus, dans les couleurs, même dans les chiffres, tout est lié à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'aimons, le Seigneur, c'est bien de s'intéresser à ce qu'il représente. Donc vous voyez ce voile avec de nouveau les chérubins qui marquent vraiment. Le chérubin, c'est dans la hiérarchie angélique, c'est ce qui est en haut. Ce sont ceux qui sont gardiens de la sainteté de Dieu. Ils maintiennent les droits de Dieu en sainteté. Voilà. Ça, c'est la définition du catéchisme de Winister. Eh bien, on le retrouve, ces fameux chérubins, ici. Alors, on ne comprend pas trop ce petit dessin-là, mais ce sont deux chérubins qui sont les ailes déployées et qui regardent le couvercle de l'arche. Ce couvercle s'appelle le propitiatoire. Et ce propitiatoire veut dire couvert. Ça veut dire que le péché est couvert, ça veut dire que le sang est déposé là, et c'est là où rentrait le souverain sacrificateur une fois par an, à cet endroit-là, en tremblant, parce que personne ne pouvait rentrer là. Mais il rentrait pour déposer du sang pour l'expiation des péchés du peuple d'Israël. Tout cela nous parle sous forme typique de notre pardon à nous, de notre rédemption. Et ces chérubins sont satisfaits. Ces chérubins qui maintiennent les droits de Dieu en sainteté et en justice sont satisfaits. Ils disent « Tout va bien, le sang est là ». Vous savez de quoi ça nous parle. Alors, c'est quand même pas top pour nous, toutes ces séparations qui sont là, toutes ces chérubins qui nous font un peu trembler. Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour nous, chrétiens ? Eh bien, oui. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons qu'il y a un rapport avec nous. Le Saint-Esprit montré par là, donc ce voile, etc., ce lieu saint, ce lieu très saint, que ce n'était pas encore ouvert pour nous tant que le premier tabernacle subsistait et que c'est un symbole pour le temps présent. Tout ça pour nous dire que oui, oui, c'est vrai, on a démarré loin. Oui, oui, c'est vrai que Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. Oui, oui, c'est vrai qu'il était là, qu'il y avait la nuée, c'était sympa. Mais ce n'était pas la finalité des choses. La finalité des choses, c'est nous qui la connaissons. Ça, c'était l'ombre des choses. La réalité, C'est la présence de Jésus dans nos vies et c'est nous qui rentrons dans la présence de Dieu. Alors nous en arrivons quelques siècles plus tard à la croix. Et vous le savez, parce que vous lisez votre Bible, il est question du voile. Alors je vais faire un peu d'historique là, pour ceux qui aiment l'histoire. On est parti du tabernacle, ça c'était en moins 1500 avant Jésus-Christ, dans le désert. Puis Salomon, il a utilisé les matériaux que son père avait mis de côté, David, et il a construit un temple pour l'Éternel. Ce temple avait les mêmes caractéristiques que le tabernacle, dans le sens du symbolisme. Il y avait bien le lieu saint, le lieu très saint, il y avait bien le voile, il y avait bien les sacrifices, tout y était, mais de manière démesurée. C'était glorieux. Et puis ce temple de Salomon, eh bien, il a été détruit. Il a été détruit en 540 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar. Je parle sous le contrôle de mon frère professeur d'histoire. Nebuchadnezzar qui est venu, parce que Dieu l'a permis, pour châtier son peuple, qui s'était tourné dans l'idolâtrie. Et donc, Nebuchadnezzar est venu, il a rasé le temple. Au grand désespoir, déportation à Babylone du peuple d'Israël. Du royaume du sud, pour être plus précis, parce que le royaume du nord, n'est-ce pas, avait été déporté 200 ans auparavant par la Syrie. Plus de temple. Mais, 70 ans plus tard, le royaume de la terre est passé de Nebuchadnezzar aux Perses, Darius, Assyrus et maintenant Cyrus, loin de l'Éternel, loin L'O-I-N-E-T. Et Cyrus donne de l'argent, permet que le peuple revienne et construise un temple sous Esdras. Alors pour les amoureux de l'Ancien Testament, Esdras et Néhémie se trouvent avant Job dans notre Bible. Mais historiquement, ce n'est pas du tout ça. Esdras, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Moins 400 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi l'ordre n'a pas suivi l'ordre chronologique. Peut-être Norbert nous l'expliquera. Mais toujours est-il que veillons dans nos Bibles à remettre les choses historiques. Esdras et Néhémie, c'est après Malachie, dans l'ordre chronologique. Ça nous permet de mieux comprendre notre Bible. Et puis arrive, je ne perds pas le fil, je suis toujours sur le voile, arrive Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est moins 20 avant Jésus-Christ. Lui, il est juif que du côté de sa mère, il a un problème parce que son père est étranger, et dans la loi de Dieu, un étranger ne peut pas être roi d'Israël. Alors il y a un problème avec les anciens et les pharisiens, ça ne colle pas. Et pour se les acheter, pour se faire bien voir, Hérode le Grand, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais vous faire un temple, il sera encore plus beau que celui de Salomon. Alors il fait un temple, effectivement, Salomon il faisait 30 mètres de haut, eh bien, Hérode le Grand il va faire 40 mètres de haut. J'en viens au voile, je n'ai pas perdu mon fil. Et le voile dans ce temple d'Hérode le Grand, il faisait 18 mètres de haut. Alors vous voyez notre salle, je ne sais pas, 3,80 mètres, 4 mètres. 18 mètres de haut le voile. Un historien qui s'appelle, je crois, Flavius Joseph, nous dit qu'il faisait 12 cm d'épaisseur. Et il rajoute que si on avait attelé un cheval d'un côté et un cheval de l'autre, il était impossible de le déchirer, tellement la solidité de ce voile. Alors, ne croyez pas qu'Hérode le Grand était un bon roi, c'était un roi très cruel, il a fait assassiner sa femme, trois de ses enfants et d'autres personnes de sa famille, donc ce n'était pas un bon roi. Mais il avait voulu faire quelque chose de grand pour les Juifs. Lui était tout petit aux yeux du Seigneur. Et nous en sommes à la croix où ce fameux voile très costaud, impossible de le déchirer, à la mort du Seigneur Jésus, quand il pousse son dernier soupir après un grand cri, entre guillemets, il était impossible qu'un crucifié pousse un grand cri. Ça, c'est fait une petite parenthèse, parce que les crucifiés, ils s'asphyxiaient. Et ils ne pouvaient plus respirer. Donc, impossible de pousser un grand cri. Pour respirer, il fallait qu'ils appuient sur leurs pieds et sur leurs poignets. Et ça allait déclencher chez eux une souffrance inouïe. Et donc, ils s'asphyxiaient. Bon. Mais notre Seigneur, il est précisé là qu'il était grand. Et il a poussé un grand cri pour montrer qu'il tenait les choses en main. Bon, ça, c'est la parenthèse, une belle parenthèse, mais c'est une parenthèse dans notre sujet. Le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Si la Bible précise ce détail, c'est bien pour nous montrer que c'est Dieu lui-même qui est à la manœuvre. Dieu ne veut plus de séparation. Bon, j'ai mis un peu de temps pour arriver jusque-là, c'est vrai, depuis la Genèse, c'est vrai. Mais c'était important pour montrer que ce n'est pas simplement des mots historiques qui sont dans notre Bible, c'est une pensée. Dans le livre de l'Exode, chapitre 15, le cantique de Moïse, chanté par Marie, nous dit « Quel Dieu est comme toi parmi les dieux, magnifique en sainteté et terrible en louange ?» Eh bien, nous avons commencé notre message en parlant de la beauté de Dieu, de la magnificence de Dieu. Dieu est magnifique en sainteté, et là, il nous dit « Je suis magnifique en grâce, en déchirant le voile depuis le haut jusqu'en bas, parce que maintenant, je vous accueille. Je vous accueille à bras ouverts. La justice de Dieu est satisfaite. Le sang de Jésus a coulé. La justice de Dieu, la sainteté de Dieu est satisfaite. Son amour, j'ai envie de dire quelque chose pour que vous vous en rappeliez. Qu'est-ce qui est égal à l'amour de Dieu ? Sa sainteté. Qu'est-ce qui est égal à la sainteté de Dieu ? Son amour. L'amour de Dieu est égal à la sainteté de Dieu en, je ne sais pas, en majesté, en puissance, en grandeur. Donc, il fallait quelque chose de puissant, quelque chose qui satisfasse. Et ça ne pouvait pas être le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des chèvres qui pouvait satisfaire Dieu. Il fallait le divin sacrifice de son Fils. Voilà pourquoi le voile du temple s'est déchiré. Alors, nous avons ce verset dans l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs, on peut rajouter. On doit rajouter. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous voyez ce verset quand il vient se poser sur les images qu'on a vues, sur ce qu'on vient de partager, sur le voile, ça donne une note encore plus grande. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Je voudrais m'arrêter sur ces deux adjectifs. Nouvelle et vivante. Nouveau parce qu'on sort des rites, on sort de la religion, on sort du judaïsme. C'est nouveau. Et vivant. Et vivant parce que ça va nous apporter tellement de vie dans nos vies, dans nos cœurs. Jésus a inauguré cette route parce qu'il a été le premier à la prendre. Alors peut-être que c'est difficile à comprendre que le voile, c'est la chair de Jésus. Je vais me hasarder à vous donner deux sens qui ne se contredisent pas, mais qui sont peut-être complémentaires. La chair de Jésus a été déchirée, comme le voile. C'est pour ça que c'est assimilé. Lorsque nous allons prendre le repas du Seigneur, nous allons prendre du pain qui est fait avec des grains de blé brisé. La meule est passée sur le grain de blé pour faire la farine. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a choisi du pain. Parce que c'est le pain, c'est le résultat de quelque chose qui est broyé, qui est déchiré, qui est brisé. Peut-être qu'on y pensera tout à l'heure quand on le prendra. Et si on parle du raisin, c'est pareil. Pour obtenir du vin, du jus de raisin, il faut que le grain de raisin soit brisé, soit broyé. Tout le monde sait ça. Et donc, la chair de Jésus a été, sa chair sans péché a été brisée. On en parlait tout à l'heure. Une autre interprétation qui peut être donnée sur ce voile, c'est que quand vous voyez Jésus, bien sûr, nous, on connaît tout le Nouveau Testament, mais ceux qui voyaient Jésus, certains avaient la foi et disaient « c'est le Fils de Dieu ». Pierre a dit « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais la plupart disaient bah, « c'est un homme comme les autres ». C'est le fils de Joseph et de Marie, ses frères et ses sœurs sont là, donc je ne vois pas pourquoi vous faites grand cas de lui. Sa personne ne reflétait pas un attrait extraordinaire. Ésaïe 53 nous le dit. Il n'y avait pas d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il était méprisé et rejeté des hommes. Et sa chair, son corps, était un voile sur les gens. Ils ne voyaient pas dans cet homme le Fils de Dieu. Ils ne voyaient pas le Créateur qui s'était fait chair. Ils ne voyaient pas la parole de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'on peut aussi interpréter ce verset, le voile, c'est-à-dire sa chair. Alors, émerveillons-nous des résultats de ce sacrifice. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, ce n'est que par la foi que nous appréhendons ces choses, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur, et le mot est en gras, souligné, dans laquelle nous sommes. Et dans le verset suivant, dans Éphésiens 1, verset 6, en faisant éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux. Les mots sont en gras, soulignés, en son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite entrée que nous avons dans le sanctuaire. Ce n'est pas un petit accès. C'est un grand accès et les résultats sont merveilleux. Et c'est en cela que nous pouvons chanter que Dieu est beau, l'Éternel est beau, magnifique. La magnificence de l'Éternel dans le temple de Dieu. Parce que le chrétien est dans la faveur de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la faveur ? La faveur, c'est une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié et d'amour. C'est une aide. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire. C'est un appui. C'est une marque de bonté, de bienveillance. C'est une notion de bienfait et de privilège. Voilà la faveur. Alors, frères et sœurs, dès l'instant où l'on est en Jésus-Christ, où l'on s'est converti, où l'on a confessé Jésus de notre bouche comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, qu'on a cru qu'il était mort pour nos péchés, qu'on l'a confessé de notre bouche, suivi par le baptême, nous sommes dans la faveur de Dieu. Ce matin, tous ceux qui croient là ont un regard bienveillant de Dieu, non pas par rapport à la semaine qu'ils ont passée, non pas parce qu'ils ont lu leur Bible, non pas parce qu'ils ont bien chanté avec Olivier tout à l'heure. Non. La faveur de Dieu est sur le croyant. Pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que souvent, nos yeux sont sur nous-mêmes et on s'en rend bien compte de ce qu'on est. On ne se la joue pas parce qu'on sait bien qu'on a fauté, on sait bien qu'on n'a pas été au top, on sait bien que... À nos yeux, on n'est pas très beau. Et alors, le danger, c'est de vouloir lutter contre nos tendances et de vouloir lutter contre le mal qui est en nous. Mais Dieu a une autre solution pour nous, et c'est en cela qu'il est beau. C'est qu'il nous dit, rentre dans ma faveur d'abord. Rentre dans ma faveur. Aie conscience du regard que je porte sur toi en mon Fils Jésus, que tu es agréable. Et c'est ça qui va nous donner la force de sortir des situations de péché de nos vies. des situations d'échec, des situations de mépris quelquefois qu'on a sur nous-mêmes. C'est de changer notre regard. Et là, nous allons acquérir une force. Et nous aurons de la force pour lutter contre tous nos ennemis. Donc, frères et sœurs, les résultats de l'œuvre de Jésus sont magnifiques. Alors, la diapositive suivante, je vous ai mis un couple. Ils sont beaux, pas seulement physiquement, mais on les sent en communion avec Dieu et en communion l'un avec l'autre. Et j'ai mis ce couple par rapport à Adam et Ève qui fuyaient, apeurés, inquiets, troublés dans la première diapositive. Ce n'est pas pour m'attarder là-dessus, mais avant de passer à la diapositive suivante, je vais demander au groupe de louanges de venir qui vont nous interpréter le chant de la fin, de la fin de mon message. Merci. Pour passer à la dernière diapositive, voilà celui que nous rencontrons lorsque nous prenons le chemin que le Seigneur nous ouvre en Jésus-Christ. Nous trouvons un Père. Dans ces versets, trois fois la mention de Père est nommée. Le Père lui-même vous aime. Tu pries ton Père et ton Père qui voit. C'est une invitation vraiment que le Seigneur nous adresse aux uns et aux autres de privilégier des moments de communion avec lui, des moments secrets où non seulement nous allons avoir la joie de voir sa beauté et sa magnificence, mais où lui va prendre plaisir en nous. On pense souvent à soi, mais il nous faut penser à notre Père, la joie qu'il a de nous rencontrer, la joie qu'il a de converser avec nous, la joie de communiquer et de relationner. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Seigneur, nous allons chanter ce chant qui parle de ça. Et je te prie de toucher nos cœurs et de nous aider à te répondre au travers de ce chant. Je te prie, Seigneur, de nous aider à y croire, à croire que c'est vrai, à croire que c'est vrai, que tu l'as fait et que tu nous le proposes encore ce matin, d'entrer dans ta présence et de nous réjouir avec toi. Comme avec un ami, tu es notre Père. Seigneur, fais-le, s'il te plaît, dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus, amen.